Un grand colloque international sur les chemins de Compostelle se tient la semaine prochaine à Toulouse.
Les 4 et 5 avril se réunira à Toulouse un colloque international sur la dimension culturelle et patrimoniale des chemins de Compostelle. L'Université Toulouse-Capitole, en partenariat avec l'Agence française des chemins de Compostelle, est l'un des organisateurs de cette manifestation. Christophe Alcantara, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur des universités et directeur adjoint de l'IDETCOM, l'Institut du droit de l'espace, des territoires, de la culture et de la communication au sein de l'Université Toulouse-Capitole. Et vous coordonnez l'organisation de ce grand colloque. Combien de personnes attendez-vous ?
Alors très concrètement, nous attendons 50 chercheurs qui vont se répartir sur 2 jours avec 42 communications. Nous attendons également des professionnels avec 2 tables rondes qui seront organisées. Et à peu près 150 participants, auditeurs et professionnels du secteur qui vont nous retrouver.
Sachant que ces 150 auditeurs peuvent être encore plus nombreux, puisque ceux qui nous écoutent pourront éventuellement se joindre à vous avant peut-être le 2 avril.
Je pense que nous allons clôturer les inscriptions en ligne demain soir, parce que nous commençons à être victimes de notre succès.
Ah,
donc jusqu'à
voilà
demain soir,
nouvelle.
On peut s'inscrire.
Oui. Alors vous disiez, il y a 50 chercheurs, ils viennent de 12 pays. Quel est l'objectif précisément de ces journées ?
Eh bien au fond, si vous voulez, les chemins de Compostelle nous interrogent à double titre. À la fois dans la dimension culturelle et à la fois dans la dimension patrimoniale. Voilà. N'oublions pas que les chemins de Compostelle ont été identifiés et du moins labellisés premier chemin culturel européen dès 1987. Et nous avons été également, à travers les chemins de Compostelle, inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1998. Et donc cette double approche et cette double interrogation n'a jamais été faite jusqu'à présent.
Donc vous voulez finalement interroger l'aspect culturel et l'aspect patrimonial ?
Exactement.
Du chemin de Compostelle. Des chemins de Compostelle.
Puisque, au fond, quel est l'enjeu dans une approche pareille ? C'est de rechercher une interdisciplinarité. On va dire que nos collègues géographes ou historiens interrogent régulièrement les chemins de Compostelle. Nos collègues et amis théologiens interrogent le fait pèlerin. Mais là, le but du jeu, c'est de faire venir également d'autres disciplines, les sciences de gestion, les sciences de l'information et de la communication, donc discipline que j'incarne, que je représente. Mais nous allons également faire venir des juristes, nous allons faire venir des philosophes, des anthropologues, des sociologues. Et n'oublions pas que les chemins de Compostelle, au fond, c'est un objet multiple, c'est un objet hybride. Et c'est cette hybridation que l'on va chercher à interroger.
Qu'est-ce que vous en attendez de ce croisement de toutes ces disciplines ?
Bien, déjà, nous allons, au fond... L'idée, quand on est scientifique, c'est de produire, de faire une production scientifique. Et donc, cette production scientifique va nous permettre de produire des ouvrages. Un ouvrage est en préparation à l'issue du colloque, ainsi que la publication des actes du colloque. Et le but du jeu est aussi de créer des ponts. Nous avons des collègues qui vont venir d'Amérique du Nord, des collègues états-uniens, des collègues canadiens, des collègues brésiliens, des collègues japonais. N'oublions pas qu'au Japon, un collègue à moi, donc Shigeru Sasaki, va nous rejoindre de l'Université de Tokyo et qui lui interroge à travers le prisme des sciences de gestion les chemins spirituels japonais. Il y a bien plus de parallèles à faire entre nos différents chemins spirituels qu'on ne le pense initialement. Et c'est ça qui va nous permettre de réinterroger et de pousser plus loin la discussion autour des chemins de Compostelle.
Et c'est la première fois qu'une telle manifestation scientifique sur Compostelle est placée simultanément sous le patronage de l'UNESCO, du Conseil de l'Europe, du ministère de la Culture et de l'Association des régions de France. Qu'attendez-vous d'une telle implication ? Qu'est-ce que ça signifie ?
Déjà, ça signifie, en ce qui nous concerne, la rigueur scientifique que l'on amène. Ça montre également l'intérêt, et on va dire que c'est une approche qui relève de l'intérêt général. On est vraiment dans une logique de service public. On est là pour participer aussi, sur un plan scientifique, à valoriser les chemins de Compostelle. N'oublions pas que quand un bien est inscrit à l'UNESCO, il faut le pérenniser. Il faut l'entretenir, il faut également le transmettre. Et très modestement, nous pensons qu'une telle manifestation participe aussi à transmettre.
Parce que ce sera une forme de publicité aussi, une forme de visibilité des chemins de Compostelle.
Alors, publicité, oui, inévitablement. Mais plus que ça, c'est le fait d'amener des publics qui n'ont pas l'habitude d'interroger ou de s'interroger sur notre patrimoine, sur notre culture, qui est à l'œuvre. Je pense que beaucoup de gens ne savent pas, par exemple, que sur les 67 monuments qui appartiennent au bien 868, donc les chemins de Compostelle en France, deux se trouvent à Toulouse. La basilique Saint-Sernin comme l'Hôtel Dieu. C'est la raison pour laquelle nous serons à l'Hôtel Dieu et nous remercions le CHU de Toulouse qui met gracieusement à disposition l'Hôtel Dieu. Et en même temps, nous remercions l'abbé de la basilique Saint-Sernin qui nous accueille également pour une visite guidée de la basilique Saint-Sernin, parce que nous devons valoriser cela et nous devons transmettre cet héritage-là.
Mmh. Alors vous parlez d'héritage et justement de cet aspect, on va dire, culturel ou en tout cas de dimension religieuse du chemin. C'est vrai qu'en 2022, plus de 226 000 pèlerins ont emprunté ne serait-ce que ce Camino Frances, hein, qui ça correspond à plus de la moitié des pèlerins, un chiffre quand même en légère diminution, alors que les chemins portugais poursuivent leur progression. Quelles sont les raisons, à votre avis, d'une telle attractivité, Christophe Alcantara?
Alors, je pense que le chiffre qui est le plus remarquable, si vous me permettez, c'est le nombre de pèlerins qui ont été comptabilisés pas plus tard qu'au 31 décembre 2023, qui dépasse les 440 000 pèlerins. Et si on part de ce chiffre-là, on s'aperçoit que depuis 30 ans, il y a une croissance continue du nombre de pèlerins, à l'exception bien évidemment de l'année marquée par le Covid. Ça veut dire que dans l'univers, dans la société sécularisée dans laquelle nous vivons, il y a inévitablement une recherche d'une verticalité. Alors, est-ce que c'est du religieux? Lorsque j'ai interrogé des gens dans le cadre de mes recherches, les 20% vont dire qu'ils font ça pour des raisons purement religieuses. La plupart d'entre eux se déclarent marcheurs, mais lorsque l'on pousse la discussion au bout d'un certain temps et que la confiance se met en place, eh bien très rapidement, les gens vont parler d'une forme de verticalité. Alors souvent, ils vont utiliser le mot spirituel. Mais n'oublions pas que l'homme est qualifié à la fois par sa bipédie, mais également par sa verticalité. Faut-il rappeler qu'il y a encore 100 000 ans, 150 000 ans, déjà, nous mettions en place des sépultures, nous mettions en place donc des rites funéraires. L'homme, depuis qu'il est homme, s'intéresse au ciel, s'intéresse aux étoiles. Il cherche à transmettre. Enfin, il suffit d'aller voir la grotte Kosker pour se poser de telles questions. Donc au fond ben, les chemins de Compostelle et la fréquentation des chemins de Compostelle nous renvoient à ce que nous sommes, des hommes qui marchons et qui recherchons une forme de verticalité, quel que soit le nom que l'on met derrière cette spiritualité.
Et pour illustrer cet aspect de recherche de verticalité, vous aurez notamment l'intervention du frère Gilles Doroc, qui est dominicain de la province de Toulouse, sur cette réponse du chemin de Saint-Jacques à cette grande recherche dans le spectre des spiritualités contemporaines.
Oui, mais nous aurons également Mgr Brugès, qui va venir parler de la patrimonialisation des objets religieux, ce qui est une véritable question. Et nous avons également le frère Piotr Rozak, collègue polonais, également universitaire, qui va venir nous rejoindre. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que dans le cadre de ce colloque, comme vous pouvez le voir, on n'a pas peur d'aller chercher des théologiens, on n'a pas peur d'aller chercher des juristes, on n'a pas peur d'aller chercher des historiens. Sachez tout de même que je co-dirige scientifiquement cette manifestation avec ma collègue et amie Adeline Rucois, qui est l'une des spécialistes mondialement connues sur les chemins de Compostelle. En ce qui la concerne, le monde en tant que médiéviste s'arrête en 1492. Et moi, je suis un spécialiste de la communication digitale. Donc, on pourrait croire cette association totalement atypique, décalée, voire incongrue. Et pourtant, ça donne une telle manifestation. Donc, vous voyez, je pense que l'interrogation multiple est nécessaire et elle est riche.
Elle est riche, oui. Il y a tout un univers autour des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Vous avez évoqué l'intervention de Mgr Brugès sur le patrimoine religieux, mais il y a aussi toutes les objets, les églises, les chapelles, les champs aussi, puis les reliques. De quelle manière tout ce patrimoine est valorisé sur les chemins de Compostelle?
Bien, déjà, il faut savoir aujourd'hui qu'il existe une structure qui participe à valoriser donc les chemins de Compostelle et dans la dimension patrimoniale et dans la dimension culturelle, et qui est l'Agence française des chemins de Compostelle. Nous avons la chance qu'elle soit basée ici à Toulouse, et on peut même aller plus loin, puisqu'elle est partenaire de l'événement. Donc, c'est eux Et à travers tous les membres de cette association, que peuvent être des institutions, des collectivités territoriales, mais également des associations jacquaires, qui participent à véritablement valoriser et pérenniser ce patrimoine. N'oubliez pas que lorsqu'un bien culturel est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, il est obligatoire, ça fait partie du cahier des charges, de penser à sa pérennité et à sa transmission. Et c'est entre autres, je crois, hein, l'un des rôles de l'Agence des chemins de Compostelle.
Oui, et alors, petite information, je ne sais pas si c'est un scoop, mais en tout cas, vous aurez à l'occasion de ce colloque la présentation de cette fameuse statue de Saint-Jacques qui avait été trouvée sous le pont neuf l'année dernière.
Oui. Donc, comme vous le rappelez, il a été trouvé une statue de Saint-Jacques l'année dernière dans la pile du Pont Vieux, au moment où des fouilles ont été effectuées. Et la mairie de Toulouse, qui est partenaire de l'événement, va mettre à disposition donc, du public, en l'occurrence des congressistes, dans la salle des pèlerins, cette fameuse statue qui a été, alors on se parle, restaurée, ou du moins largement dépoussiérée, avant qu'elle soit... mise à la disposition du public dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Mais donc, nous allons vivre une avant-première.
Vous allez vivre une avant-première. Cette dimension internationale du colloque va aussi vous permettre d'interroger d'autres chemins, d'autres pèlerinages. Vous avez évoqué cette intervention de ce dominicain polonais et puis aussi de ce japonais. Qu'est-ce que vous attendez de ces autres regards ?
Ce qui est intéressant à travers les autres regards et éventuellement les autres continents, c'est d'interroger dans un premier temps Compostelle. Parce que Compostelle, alors je vais être un peu caricatural, voire même un peu provocant, c'est une marque. Oui. Énormément de chemins aujourd'hui, énormément de pèlerinages s'identifient à Compostelle. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un pèlerinage, ou du moins qu'un chemin de pèlerinage est en cours de constitution en Provence, et qui est le pèlerinage de Marie-Madeleine, qui va des Saintes-Maries de la Mer jusqu'à la Sainte-Baume. Et ils se définissent eux-mêmes comme étant un chemin semblable ou comparable à Compostelle. Donc vous voyez bien que la référence, le « là », si vous me passez l'expression, c'est Compostelle. Et l'attractivité de Compostelle est visible sur les 5 continents. Plus de 120 nationalités représentées sur les chemins de Compostelle, même si les Européens et les Espagnols représentent quand même une part très significative. Donc c'est cette première interrogation-là. Et dans un deuxième temps, il y a d'autres chemins spirituels, d'autres chemins culturels qui existent dans le monde et qui méritent d'être interrogés à travers le prisme du pèlerinage. Un de nos collègues anthropologues, spécialiste des pèlerinages en Inde, va venir nous faire une approche comparative entre les pèlerinages indiens et le pèlerinage de Compostelle. Pour vous donner un ordre de grandeur, l'Inde est un continent. Le pèlerinage récurrent chez eux, dont j'ai égaré le nom, excusez-moi, c'est un peu plus de 20 millions de pèlerins chaque année. Donc on change d'échelle. Mais malgré le fait que l'on change d'échelle, il y a quand même toujours une approche semblable, il y a des similitudes qui méritent, et bien évidemment des choses également extrêmement différentes, qui méritent d'être interrogées. Mmh. C'est ça que l'on va chercher à faire.
C'est ça que vous allez chercher. Et puis, il y a quand même aussi cet aspect économique, puisque dans les chemins de Compostelle participent au développement économique des collectivités territoriales. Et c'est aussi pour ça que vous aurez des intervenants publics pour témoigner de ce développement.
Tout à fait. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, mon laboratoire interroge les territoires, la culture et la communication, en même temps qu'il interroge l'espace. Mais on voit bien que lorsque l'espace est symbolique, les territoires, qui sont des territoires donc, locaux ou nationaux, la culture et la communication, on voit bien que tous ces angles-là se retrouvent, tous ces axes-là pardon, se retrouvent sur les chemins de Compostelle, et c'est la raison pour laquelle on s'est senti légitime de prendre la main et de pouvoir organiser cet événement. Et donc pour répondre à votre question, l'idée, ben oui, c'est de chercher à voir comment, sur un plan économique, on peut valoriser des territoires, développer des territoires, sans renoncer non plus à la nature profonde des chemins de Compostelle. Ça ne peut pas être uniquement, exclusivement un levier économique. Il y a toujours, ou d'une manière ou d'une autre, une forme de verticalité, y compris dans notre monde sécularisé. Et on ne peut pas renoncer à ça.
On ne peut pas renoncer à ça. Merci beaucoup Christophe Alcantara, professeur à l'Université Toulouse-Capitole et donc coordinateur de ce fameux colloque international sur les aspects culturels et patrimoniaux des chemins de Compostelle. Ce sera la semaine prochaine, semaine de Pâques, les 4 et 5 avril. Merci.
Merci à vous.